Un journal de 7 heures présenté donc par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Lionel, bonjour à tous. On va aller à la castagne et on va les fumer, dit un député socialiste. J'espère qu'on n'en viendra pas aux mains, s'inquiète un parlementaire de droite. Ambiance garantie à quelques heures de l'ouverture des débats sur la réforme des retraites à l'Assemblée. Depuis deux jours, la majorité présidentielle bat le rappel des troupes. L'exécutif prêt à lâcher du lest sur les carrières longues pour obtenir le soutien des Républicains. Sauf qu'une partie des LR menace toujours de faire sécession. Alexandre Chauveau.
Oui, avec un désaccord majeur qui concerne les travailleurs ayant commencé avant 21 ans. Pour Aurélien Pradier, tous devraient pouvoir partir à la retraite avant l'âge légal de départ, après 43 années de cotisation. Pour Elisabeth Borne, cette règle ne peut s'appliquer qu'aux travailleurs éligibles au dispositif carrière longue qui nécessite d'avoir cotisé au moins 5 trimestres avant ses 21 ans. La différence d'appréciation concerne aussi le coût. La mesure proposée par Aurélien Pradier coûterait selon lui 1 milliard d'euros, mais 10 milliards selon la Première ministre, qui se refuse donc au nom de l'équilibre des compte à y accéder. Alors le refus de voter le texte d'une partie de la droite embarrasse en tout cas Éric Ciotti, interlocuteur majeur de la Première ministre avec Olivier Marleix. Le président des Républicains est mal à l'aise avec l'idée de ne pas voter une réforme qu'il a longtemps défendue. Éric Ciotti aurait enfin du mal à justifier la position de ses collègues au regard des avancées obtenues auprès du gouvernement. Son autorité à la tête des Républicains pourrait bien en être écornée.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Ouverture des débats à 16h cet après-midi avec un premier écueil pour le gouvernement. Les députés de la France insoumise vont proposer d'entrer le rejet de l'ensemble de la réforme. Et s'il franchit cette haie, l'exécutif n'en aura pas terminé avec la course d'obstacles. 20 000 amendements ont été déposés, dont 13 000 par la NUPES. Fin des débats prévus le 26 mars à minuit.
Bataille politique donc à l'Assemblée nationale, mais le gouvernement va également devoir affronter la contestation à nouveau dans la rue demain.
Troisième journée de manifestation et de grève. Forte perturbation en vue à la SNCF, dans le métro et à Air France. Jusqu'à présent, l'impact était relativement réduit, mais la multiplication des jours de grève commence à poser problème. Margot Fodéré, les jours de RTT ne sont pas extensibles, même le télétravail trouve ses limites.
D'abord, il faut rappeler que tous les emplois ne sont pas télétravaillables. En Île-de-France, là où l'impact des grèves est le plus fort, puisque la majorité des travailleurs prennent les transports pour aller au bureau, 6 employés sur 10 ne peuvent pas travailler chez eux. Alors face à la grève, deux options, se lever plus tôt et tenter sa chance dans les transports, ou tout simplement poser sa journée. Une solution qui n'est pas durable pour Marie-Sophie Nocchi-Claverie, directrice générale du MEDEF Paris.
On ne peut pas poser à répétition des jours de congé, d'abord parce que ça désorganise le travail et que soi-même on a peut-être d'autres projets et besoin d'autres jours pour partir en vacances.
Pour les salariés qui peuvent, eux, télétravailler un ou deux jours par semaine, difficile d'en faire plus.
Il y a bien des jours de présentiel. Le mardi et le jeudi sont des jours privilégiés dans les entreprises pour des interactions, des réunions d'équipe. Et là, des grèves ont été choisies le mardi et le jeudi.
Et cet impact sur l'organisation au travail inquiète les chefs d'entreprise. Selon le MEDEF, près de 70% d'entre eux redoutaient déjà des mouvements sociaux dans le pays à la fin de l'année dernière.
Margot Fodéré du service économie d'Europe 1. Les syndicats déterminés à ne rien céder, les propositions d'Elisabeth Borne sur les carrières longues et l'index senior dans les entreprises, ces rustines ne changent rien à un projet de loi injuste et brutal, tacle ce matin dans les Échos le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Déplacement très attendu de Gérald Darmanin aujourd'hui en Corse à l'occasion de la commémoration des 25 ans de l'assassinat du préfet Claude Erignac. Le ministre de l'Intérieur présidera la cérémonie prévue à Ajaccio.
On en parle dans quelques instants avec notre invité à 7h10. Il est 7h et bientôt 4 minutes sur bientôt 5 minutes sur Europe 1. Le mystère reste entier à Brest autour de la disparition d'Elena. Un suspect a été identifié hier par les policiers.
Cette jeune femme de 21 ans n'a plus donné de nouvelles depuis une semaine. Les soupçons se portent sur un homme de 36 ans. Il aurait reconnu partiellement les faits. A-t-il renversé et tué Elena, comme le laissent supposer ses déclarations rapportées par des proches? L'hypothèse d'un accident de la route demande encore à être vérifiée, d'autant que le suspect est dans un état grave après deux tentatives de suicide. Charles Guyard, correspondant d'Europe 1 en Bretagne.
Portée disparue depuis dimanche matin 29 janvier, Elena Clouillou, étudiante de 21 ans, aurait finalement été fauchée par une voiture en rentrant chez elle après une soirée en boîte de nuit. Au volant, un homme de 36 ans qui s'est confié quelques jours plus tard à son frère après avoir tenté de mettre fin à ses jours. Camille Miansoni, le procureur de la République de Brest.
Il invoquait le fait d'avoir commis une bêtise, que c'était un accident. Et lorsqu'on lui demandait « mais de quoi s'agit-il » il avait répondu à son frère « tu n'as qu'à voir ce dont on parle à Brest depuis 5 jours ».
Et ce dont on parle parlait, c'était donc d'Elena Clouyou, dont le visage s'affichait sur de nombreux avis de recherche placardés dans toute la ville. Mais ces révélations ne dissipent en rien le mystère, car l'accident n'est pour l'heure qu'une hypothèse et pour cause. Le corps de la jeune femme demeure introuvable et seul le suspect est en mesure d'indiquer l'endroit où il se trouve. Problème, ce dernier est dans l'impossibilité d'être auditionné. Après une nouvelle tentative de suicide, cet employé de restauration au casier judiciaire vierge se trouvait hier soir dans un état critique. Quant à son véhicule, il a par ailleurs été retrouvé incendié quelques jours plus tôt.
Charles Guyard, correspondant d'Europe 1 en Bretagne. L'actualité à l'international, c'est ce que vous entendez, c'est le grondement sourd du séisme qui a frappé le sud de la Turquie et une partie de la Syrie voisine. Tremblement de terre d'une magnitude de 7,8. Le bilan encore provisoire fait état d'environ 200 morts. Les dégâts sont très importants et on craint maintenant un tsunami. Le sud, le trafic ferroviaire a été interrompu, totalement arrêté dans le sud de l'Italie.
L'étranger toujours, rien ne va plus entre la Chine et les États-Unis. L'affaire du ballon enflamme les relations entre Pékin et Washington.
Les débris de l'aéronef abattu samedi sont en cours de récupération. Les Américains veulent apporter la preuve qu'il s'agissait bien d'une opération d'espionnage. Faux, rétorquent les Chinois. C'était une sonde météo, un épisode de plus dans la guerre psychologique que se livrent les deux pays. Sans doute pas le dernier, la Chine promet que cet incident ne restera pas sans réponse. Et le ton vient encore de monter d'un cran ce matin. Sébastien Le Belzic, correspondant d'Europe 1 à Pékin.
Oui, un nouveau communiqué ce matin du gouvernement chinois, le troisième en deux jours, et toujours les mêmes critiques, je cite « Les actions américaines ont gravement affecté et endommagé les efforts et progrès des deux parties pour stabiliser les relations sino-américaines. En clair, c'est la faute aux Américains. Le gouvernement chinois veut évidemment donner l'impression que la Chine serait la victime d'une provocation américaine alors qu'il s'agissait de détruire un ballon espion. Mais Pékin continue d'affirmer qu'il s'agit d'un engin météo. Même tonalité dans la presse chinoise ce matin qui continue de tirer à boulets rouges sur ce qu'elle considère être une attaque américaine visant la Chine. Pour la presse officielle ici comme le Global Times, qui est en quelque sorte le porte-voix du Parti communiste, la Chine pourrait à son tour abattre n'importe quel appareil civil étranger qui entrerait par erreur dans son espace aérien. C'est ce qu'il faut donc entendre par les mesures de rétorsion brandies depuis dimanche par les autorités chinoises. En voulant tuer un moustique à coups de canon, écrit le Global Times, Washington prend le risque d'une escalade militaire.
Sébastien Le Belzic, correspondant d'Europe 1 en Chine.
Le sport, le rugby, le plus important, c'est la victoire. C'est ce que l'on retient du premier match du 15 de France face à l'Italie hier après-midi dans le tournoi des Six Nations.
29-24, le score parle de lui-même. Ce ne fut pas une promenade face aux Italiens, Axel May.
Oui, comme se plaît à le répéter Fabien Galthié, le sélectionneur, seule la victoire est belle. Mais elle fut laborieuse face à une équipe italienne qui, même en pleine renaissance, et même avec le soutien de son public, criant « Italia, Italia !», reste la formation réputée la plus faible du tournoi des Six Nations. Hier, les Bleus ont été largement gênés par leur indiscipline. 18 pénalités concédées, du jamais vu sous l'ère Galthié. Le troisième ligne, Anthony Jelonche, en est bien conscient.
C'est la première fois que ça nous arrive, une telle chose, un tel désastre de discipline. Mais je crois que ça va nous mettre une bonne piqûre de rappel. On va être très discipliné la semaine prochaine. Si on veut faire un coup en Irlande, il va falloir être très discipliné et pas faire autant de fautes, parce que sinon ça sera beaucoup plus cher.
Une équipe d'Irlande qui a fait très forte impression ce week-end en éparpillant façon puzzle les Gallois chez eux à Cardiff. Alors pour préparer au mieux ce match de samedi, le 15 de France ne va pas repasser par Paris. Il reste jusqu'à jeudi à Rome, d'où il rejoindra directement Dublin.
Axel May du service des sports d'Europe 1 Irlande-France, ce sera donc samedi. La 22e journée de Ligue 1 de football, Marseille battue 3-1 à domicile par Nice. L'OM reste deuxième à égalité de points avec Lens, mais laisse Paris s'échapper en tête. Le PSG compte désormais 8 points d'avance au classement.
Petit break pour le Paris Saint-Germain, effectivement. Merci Christophe Lamont.